À partir de ce jeudi, pour trois représentations à l'Auditorium de l'Opéra de Dijon, Uomo Femina, un opéra de Galuppi, la mise en scène est signée Agnès Jaoui. Dans la fosse d'orchestre, les musiciens du poème harmonique et évidemment, vous serez à sa tête, Vincent Dumestre. Un opéra qui, pour beaucoup d'entre nous, quand je dis beaucoup, le mot est faible, va être l'occasion d'une découverte.
Ah oui, absolument, puisqu'en fait, c'est très rare. Il a été une partition donc perdue pendant 300 ans, redécouverte il y a 20 ans. Ou 20-25 ans, et dont la première lecture sera pour les Dijonnais et tous ceux qui voudront bien nous retrouver en Bourgogne, voilà, pour cette première de cette œuvre vénitienne, hein, pourtant, mais dont le manuscrit a été redécouvert à Lisbonne.
Une fois la partition découverte, une fois travaillée par les musiciens, quel est l'intérêt pour le musicien, non pas de la découverte, mais de cette œuvre en particulier?
Bah, ce sont d'abord ses qualités musicales. C'est une œuvre qui est passionnante parce qu'elle représente vraiment une époque. C'est un opéra bouffe. Donc c'est à la fois un opéra. On a vraiment les caractéristiques de l'opéra. Avec, bien sûr, comme vous l'avez dit, sa fosse, son orchestre en fosse, ses solistes sur le plateau, tout un travail scénographique. Et puis les beaux airs que Venise était capable de nous offrir au XVIIIe siècle. Mais c'est aussi un opéra bouffe, c'est-à-dire que c'est un opéra dont un des objectifs, enfin un des projets, c'est de faire rire. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très, à la fois très poignant, très fort et très drôle dans cette œuvre. Et donc, pour le musicien que je suis, une fois passée la découverte, oui, bah c'est de travailler l'œuvre, de la structurer, d'arriver à en comprendre les ressorts pour qu'aujourd'hui elle soit aussi puissante qu'à l'époque, aussi forte parce que le thème en est très fort et qu'elle soit aussi drôle parce qu'il y a vraiment un potentiel comique dans certaines situations ou certains personnages qui vraiment font rire aujourd'hui autant qu'il y a 300 ans.
Est-ce qu'on n'est pas un peu entre deux époques, tout de même, entre la période baroque et puis la période, on va dire, classique, pour faire simple?
Oui, disons qu'on écoute une œuvre qui prépare, je pourrais dire, l'ère mozartienne, pour simplifier, ou qui anticipe des compositeurs tels que Haydn ou bien Mozart. Si vous connaissez Così fan tutte, c'est un petit peu la même type d'œuvre, c'est-à-dire le même type de structure, en tout cas musicale, avec six solistes, trois actes. À la fin de chaque acte, il y a ce moment où tous les personnages sont sur scène, et en général, c'est des moments très 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 dynamiques, très drôles ou très très pathétiques. Et puis musicalement, on sent bien la fin du baroque, on va dire, et l'arrivée d'une écriture assez moderne pour l'époque. Quelques années plus tard, parce qu'en fait on est en 1762.
En même temps, on est en 1762 à Venise, et c'est pas anodin.
Venise couvrait l'Europe, c'est-à-dire que la musique vénitienne était entendue partout. D'ailleurs, l'Uomo Femina a été donné à Vienne. Galuppi a traversé l'Europe, il a rencontré Carl-Philippe Emmanuel Bach. Il était adulé de Rousseau en France, de Casanova en Italie. Et en fait, l'Europe était beaucoup plus européenne qu'on ne le croit. C'est-à-dire que les grands artistes étaient célèbres dans tous les pays. Ils traversaient l'Italie. Était évidemment mais c'était la fin d'ailleurs, mais encore un peu le centre de l'Europe sur le plan culturel. On est à l'époque où Venise est à son déclin, mais elle reste évidemment la ville de culture phénoménale qu'on connaît. Et Vienne, Berlin, Paris connaissaient les œuvres de Galuppi qui étaient célèbres. Je peux même vous dire que le tsar de Russie a fait venir Balthazar Galuppi Saint-Pétersbourg en le suppliant de travailler à la cour de Russie. Et du coup, Galoupi est resté, je crois, 4 ou 5 ans comme compositeur du personnel du tsar.
Roberto, et dove sei? C'è lì che feci mai tutt'altro io mi credei che essere tanti qua ma piano. E che ti accora, che ti accora, ora vedesti ancora cosa da fare, tu non vedesti ancora cosa da fare.
Pour monter cette opéra à Dijon, vous travaillez, je retiens le mot, avec Agnès Jaoui, alors qui n'est pas étrangère au monde de la musique, mais qui ne passe tout de même pas pour une metteuse en scène, je ne sais pas comment il faut dire, d'opéra.
Non, mais d'ailleurs, L'Uomo Femina est d'ailleurs bien plus qu'un opéra, c'est presque une pièce de théâtre en musique, et Agnès est quelqu'un qui a toujours été passionné par la musique, et d'ailleurs elle est chanteuse, même si c'est dans un autre style. C'est par contre quelqu'un qui aime l'opéra depuis toujours. C'est vraiment quelqu'un qui est lyricomane, on pourrait dire, et qui connaît très bien le répertoire, et qui est passionné d'opéra et de mise en scène d'opéra. C'est par contre quasiment sa première mise en scène, mais surtout, et c'est pour ça qu'elle est avec nous, c'est que c'est quelqu'un qui connaît si bien le théâtre, qui est quelqu'un qui est une directrice d'acteurs phénoménale, qui sait extrêmement bien tirer le meilleur parti de chaque acteur, de chaque chanteur sur scène, qui sait extrêmement bien faire travailler des scènes d'ensemble et faire trouver aux chanteurs la liberté, le naturel.
Un opéra particulier, vous l'avez dit, dont le point de départ est une fable.
Alors, fable veut dire qu'on raconte une histoire, effectivement, ou fable veut dire qu'on n'est pas dans la réalité, on est sur une scène de théâtre et c'est une fiction. À l'époque, c'est une fiction et c'est justement parce que c'est une fiction que le librettiste Pietro Chiari et le compositeur Baltasar Galuppi peuvent se permettre d'intégrer dans cette histoire des éléments ou des idées, on pourrait dire, philosophiques qui sont celles du siècle des Lumières, qui sont celles de cette fin du XVIIIe siècle.
C'est le féminisme avant l'heure ?
J'aime pas trop le terme, parce que le terme de féminisme est un terme, finalement, dans son acceptation actuelle, très moderne, et on peut pas vraiment l'appliquer au rôle qu'avait la femme au XVIIIe siècle, et notamment à Venise. Mais par contre, oui, il y a des interrogations qui sont celles des auteurs, de Chiari et Galuppi. Il y a une remise en question évidente de la société patriarcale de l'époque. Il y a une prise de conscience de la place dépréciée des femmes à l'époque. Donc il y a une volonté évidente de redéfinir ce que c'est que le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que Chiari et Galuppi composent une œuvre qui est une sorte de miroir inversé du monde masculin de l'époque. Donc une île. Et pourquoi une île ? Parce qu'en fait, c'est loin. Donc voilà, c'est sur une île qu'on peut raconter, comme vous disiez, une fable, c'est-à-dire une histoire. Et dans cette île, gouvernent des femmes qui se comportent comme des hommes, en tout cas dans un au sens patriarcal ou presque machiste du terme, et elle considère les hommes comme ce qu'on appelle des, enfin c'est vraiment dit dans le livre, des hommes objets, des proies même, dit-on. C'est-à-dire au début il y a deux hommes qui arrivent, qui échouent sur cette île, sur une plage, et puis les femmes de cette île les découvrent et décident qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre, et bien sûr la reine de l'île veut se les approprier, et ce sont mes proies et non pas vos proies, etc., etc. Donc y a, voilà, mais c'est avec beaucoup d'humour, c'est une satire de notre société patriarcale, enfin de la société patriarcale du XVIIIe siècle.
Mais en même temps, l'arrivée de ces deux naufragés sur l'île bouleverse l'ordre établi, même si cet ordre est inversé.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à travers cette œuvre comique, parce qu'encore une fois, elle l'est, il y a ces idées que défendait d'ailleurs Chiari, qui était, au-delà d'être un librettiste, c'était un romancier, c'était un philosophe, et qui avait une haute opinion des femmes et de la place des femmes dans la société. C'est quelqu'un qui voulait vraiment que la femme trouve une véritable place d'égalité face à l'homme. Par contre, le spectacle, si vous voulez, à l'époque, ne permettait pas, c'est pas un ouvrage philosophique, ça reste une œuvre pour le public qui dure 2 heures et qui est une œuvre drôle. Et du coup, à un moment donné, il faut ce qu'on appelle à l'époque un lietofine, c'est-à-dire une fin heureuse, une fin joyeuse. Les lietofines au XVIIe, au XVIIIe siècle, ou dans les pièces de Molière, c'est le mariage final, si vous voulez, tout est bien qui finit bien, voilà. Et il fallait donc que cette œuvre finisse de cette manière-là, par un lietofine et quelque chose qui revienne dans la norme, entre guillemets, et cette norme, alors sans spoiler la fin de l'histoire, mais cette norme fera que finalement, le Roberto, qui est un des deux valeureux garçons qui arrive sur cette île,
et séduit la reine, et réciproquement,
prendra le pouvoir et se mariera avec la reine, et finalement les choses reviendront dans l'ordre. Mais ce qui est très drôle, et très énigmatique surtout, c'est qu'à la fin de l'œuvre, il y a une sorte de commentaire théâtre dans le théâtre du librettiste, et le dernier chœur dit « Mais qui a bien compris cette œuvre et qui a du flair comprendra sans hésiter ce que l'auteur a voulu dire. »
Mais est-ce qu'on n'a pas envie alors de s'accaparer certains aspects justement de l'œuvre en question pour la rendre encore plus contemporaine, et là on est en 2024, qu'elle naît au départ?
On peut tout aujourd'hui, puisqu'en fait c'est aujourd'hui, comme vous le savez, pour les œuvres qui sont données sur scène, qui sont des œuvres patrimoniales, il y a 1000 façons de les interpréter. C'est un choix d'un metteur en scène. En ce qui nous concerne avec Agnès Jaoui, on a choisi plutôt de respecter la réalité de cette œuvre. Il s'agit bien d'une île, il s'agit bien d'un palais, il s'agit bien de femmes qui ont le pouvoir, il s'agit bien d'hommes qui sont soumis à ces femmes et qui leur obéissent et qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux, par exemple, et à qui on confie de repriser les chaussettes et de préparer à manger. C'est vraiment ça l'esprit du livret, et c'est vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire en respectant l'histoire, tout simplement, de cette œuvre, qu'avec Agnès, on a choisi de la raconter. On ne peut pas ressembler exactement à ce qu'aurait fait au XVIIIe siècle un scénographe. D'ailleurs, les metteurs en scène n'existaient pas à l'époque, c'était plutôt des scénographes. Mais en tout cas, nous respectons à la lettre le texte, parce que c'est du texte et du sens premier et original que naît l'émotion et ou que naît la force comique.
Yeah!
ou Homo Femina à l'Opéra de Dijon, à l'Auditorium, donc ce jeudi, vendredi, samedi, 20h. On met les liens sur le site de BFC Classique. Vincent Dumestre, c'est une coproduction Dijon-Caen-Versailles, donc ça veut dire ensuite le spectacle va partir ailleurs.
Bah oui, il faut rendre hommage à la maison d'opéra qu'est celle de Dijon, parce que c'est elle qui crée le spectacle, donc c'est le producteur principal. C'est elle qui prend justement les risques d'une œuvre en plus inconnue. Hein, vous voyez, c'est pas comme si on faisait une énième Traviata. Donc là, on est sur une œuvre inconnue. Et justement, c'est ça qui nous intéresse et nous excite, c'est qu'on a envie de faire découvrir au public des airs nouveaux, qui sont des airs magnifiques, qui sont des vrais tubes, une histoire nouvelle, et finalement se plonger dans un siècle qui n'est pas si loin de nous. Et pour ça, il faut prendre des risques. Et donc, voilà, moi, je veux vraiment rendre hommage à l'Opéra de Dijon de faire cela. Il le fait main dans la main avec l'Opéra Royal de Versailles, effectivement, et le Théâtre de Caen, qui sont donc les deux autres coproducteurs, avec le Poème Harmonique également.